With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Un jour, elle sera mienne. Oh oui. Un jour, elle sera mienne.
Bienvenue dans ce 15e épisode du podcast We Love TFTC de We Love Cinéma. À mes côtés, Guillaume et Aurélien, comment ça va?
Salut, ça va et toi?
Nous avons le plaisir... J'ai même pas répondu à ton « et toi ».
C'est
devenu une phrase que j'écris sur ma feuille comme ça, mais je réponds même pas. Ça va très bien, Guillaume.
Ah, plaisir. Ouais.
Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Pénélope Bagieux pour parler ciné, mais aussi BD, entre autres. Comment vas-tu?
Je vais très bien, merci.
Tu vois, là, j'écoute. Guillaume,
ouais,
j'écoutais pas,
mais
là, j'écoute.
C'est plus intéressant aussi.
Alors, est-ce que tu peux te présenter pour ceux et celles qui ne te connaissent pas?
Eh ben, tu as dit l'essentiel, hein. Je m'appelle Pénélope Bagieux et j'écris des bandes dessinées. Voilà.
C'est un très beau résumé.
Ouais.
Alors, la semaine dernière, c'est Guillaume qui a choisi le sujet du jour. Il est allé sur l'outil Cinémature que vous pouvez retrouver sur le site de We Love Cinéma. Il a trouvé un film et ses indices étaient Sphincter. C'était quoi tes autres indices?
Garage.
Ouais.
Et sponsor.
Très bien. Il s'agit bien évidemment du film Wayne's World. Film sorti en 1992 et réalisé par Penelope Spheeris. Total hommage au Penelope dans cet épisode. Wayne's World, ça raconte l'histoire de deux fans de hard rock qui animent une petite émission de télé dans la cave des parents de l'un d'eux. Émission qui, suite à son succès, suscite des convoitises. Ce film, devenu culte avec le temps, fit un carton au box-office mondial, remportant 180 millions de dollars pour un budget de 20 millions. Il compte également plusieurs caméos de personnalités de la musique, puisqu'on y retrouve Alice Cooper et Meatloaf, et ce film permit l'éclosion de l'acteur Mike Myers et, à un degré moindre, celle de son partenaire à l'écran, Dana Carvey. Alors je me tourne vers vous, la traditionnelle question qui ouvre ce podcast, quel est votre premier souvenir lié à ce film? Et je vais commencer avec Pénélope.
C'est le premier film que je sois allé voir au ciné sans adultes.
Ouais.
Ouais. J'étais en sixième.
Donc c'était 92-93,
ouais, c'est
vrai.
Et c'est la première fois qu'on est allé au ciné en demandant de l'argent à nos parents et en n'ayant pas d'adultes avec nous. J'étais avec des copains, donc c'était la folie en fait d'aller au ciné tout seul. Et voilà. Et j'étais allée parce que j'étais fan de Queen quand j'avais 10 ans et que ma sœur m'avait dit tu devrais y aller. Il y a une scène pas mal avec Bohemian Rhapsody à un moment.
Cool.
Voilà.
C'est marrant parce que depuis le début du podcast, je crois que personne dans ses souvenirs n'a mentionné le fait qu'il allait voir un film pour la première fois seul au cinéma.
Je suis jamais allé seul au cinéma en fait.
Non, mes parents, j'étais pas seul.
Toujours mes parents avec moi.
J'avais 10 ans, j'avais pas de potes.
Sans amis très tôt. Oui, non, avec des amis, mais sans les parents en fait. Moi, je me souviens pas quand est-ce que je suis allé tout seul sans les parents au cinéma pour la première fois.
Ah ouais, j'en souviens.
Ah ouais, c'était quoi?
Pulp Fiction. Ouais.
Ok.
Voilà.
Moi, je me souviens d'une fois où j'étais en vacances et il y avait Pulp Fiction qui passait sur la 6. J'étais en Normandie et ma grand-mère avait dit ce soir il y a Pulp Fiction. Ça me fait rire. C'est un truc qui m'a marqué, je sais pas pourquoi.
Mais si, aucun intérêt d'y aller sans les parents si tu vas voir un Walt Disney.
Bon. Oui,
ouais, c'est vrai.
Effectivement. Oui. Guillaume, ton premier souvenir de ce film?
Mon premier souvenir, j'y ai réfléchi et je l'ai pas vraiment trouvé, mais je sais que ça fait partie de ces films où, en fait, quand je faisais de la musique, donc je commençais la musique vers 15-16 ans à jouer dans des groupes, etc. Évidemment, c'était des groupes de métal, de rock et tout. Et il y avait toujours ces trucs de méga teuf, excellent, ouais. Un jour elle sera mienne, toujours ces vannes qui revenaient. Et je savais que ça venait de là, je l'avais vu plutôt sur le tard, je crois que je l'ai vu vers 18-19 ans quand même. Et ça devait être... il me semble que je l'ai vu à la télé sur RTL 9. Voilà, bon souvenir.
RTL 9, mais...
Bah, j'avais la télé dans ma chambre.
J'ai cru que t'avais dit Arte. J'ai eu un blocage.
Bah, je pense qu'il pourrait passer sur Arte. Ouais,
je l'avais pas en cassette, mais voilà.
Aurélien.
Moi, c'est entre Guillaume et Pénélope, mon expérience. C'était pas tout à fait au cinéma, mais c'est une des premières cassettes que je me souviens de regarder avec mes potes au collège. Genre, tu sais, les premiers films que tu regardes parce que justement, tes parents, ils comprennent rien et ils détestent, en fait. Mmh. Et on avait quelques cassettes comme ça. À l'époque, j'étais fan de Mel Brooks. Genre, c'était Sacré Robin des Bois était sorti au cinéma, j'étais allé le voir. Et après, tous les films qui ressemblaient, c'était genre, j'adorais ça, tu vois. Ouais. Parce que mes parents trouvaient ça nul. Genre Hot Shots, Wayne's World notamment. Et en plus, c'était l'époque où on écoutait tout du métal, du hard rock. Enfin, du métal, on s'entend, hein, c'était souvent Guns N' Roses quand même.
Ouais.
Tu sais, c'était des mélanges bizarres de partout. Et donc, ouais, on regardait. Mais moi, en fait, je me rendais compte que je me rappelais pas de l'histoire du film. Je pense que je me rappelle juste des répliques, tu vois. Et pareil, on se balançait les vannes, on se balançait les répliques tout le temps, sans arrêt.
Moi, c'est un film que j'ai vu plusieurs fois quand j'étais enfant, parce que mon beau-père était un gros fan de hard rock. Et ma mère était une grande fan des Nuls. Et comme le film avait été doublé par les Nuls, il y avait une sorte de truc où ça devenait leur film. Ils le regardaient souvent. Du coup, ils avaient acheté la cassette. Et par ricochet, comme ça, je regardais souvent ce film et ça me faisait énormément rire.
C'est marrant parce que j'allais dire, c'est rarement un film de tes parents. Mais en fait, si.
Ouais, j'avoue. Ouais.
En fait, mais c'est pas vraiment un film de tes parents. Ils font, ouais, regarde ça, c'est génial.
Ouais, mais le truc, c'est que comme ma mère m'a eu très jeune, et mon beau-père l'était encore plus. Donc du coup, il y avait un... c'est comme si toi, tu regardais Wayne's World maintenant, genre à 30 et quelques.
Ouais, c'est vrai.
C'est la même chose, en fait. Wayne's World est donc devenu un film culte, mais avant ça, c'était un sketch culte.
Ouais.
N'est-ce pas, Aurélien ?
Tout à fait. À la base, en effet, Wayne's World, c'est un sketch, et c'est donc un sketch, bien sûr, du Saturday Night Live, mais avant ça, c'était aussi, d'abord, un personnage de Mike Myers, qu'il a développé au Canada. Parce que Mike Myers fait encore partie de ces grands comédiens canadiens qui ont débarqué dans le Saturday Night Live depuis le début du Saturday Night Live en 1975 dans l'émission. Il y a déjà Dan Aykroyd et Gilda Radner qui sont déjà des Canadiens que
Nickel,
le producteur est parti chercher. Jim Carrey aussi, bien sûr, il y en a plein. John Candy. Enfin, c'est fou en fait de se dire que quasi tous les comédiens qu'on aime bien et qui sont un peu foufous et qui ont ramené des choses hyper fortes dans la comédie américaine, en fait, c'est des Canadiens. Je trouve ça assez drôle. Et donc, en fait, le personnage de Wayne, Wayne Campbell, il l'avait créé tout seul à l'époque dans une émission de variété où, justement, il présentait des clips. Et ils avaient la minute Wayne. Et Wayne avait déjà cette présentation-là où il venait, il faisait un peu avec son sourire niais et tout, en regardant comme ça. Il présentait, en fait, les morceaux qu'il avait kiffés. C'était un peu une sorte de Beavis and Butthead, tu vois. Et il parlait un peu de ciné et tout, enfin, c'était très culturel. Il avait une minute dans cette émission qui s'appelait It's Only Rock and Roll, donc sur CTV, je crois, enfin, ou CBS, enfin, bref, le PBS canadien. En 1987, tu vois, ça a été créé. Et au départ, il était carrément sur une chaîne de télé locale qui s'appelait City TV de Toronto, d'où il vient. Et il y avait une émission qui s'appelait City Limits qui jouait tard le soir, où il y avait des clips, et c'est là, en fait, où il a créé le personnage de Wayne Campbell. Et donc, il faisait partie de Second City, qui était un peu, genre, les grands... Enfin, c'était juste pour rire de Toronto, quoi. Et où il y avait... Enfin, c'est une école de classe de comédiens. Il y a énormément de gens qui vont...
Il y avait Steve Carell.
Exactement, mais il y a tout le monde est passé par là, en fait. La plupart. Bah, Dan Aykroyd, il vient de là, tous... En fait, c'est là où le producteur de SNL allait pour récupérer les talents qui étaient différents, tu vois, qui n'étaient pas de l'humour américain. Donc, bah, Mike Myers, il vient
de ça. Effectivement, Steve Carell a été dans la Second City et Lorne Michaels. Il y a une sorte de polémique en gros où Steve Carell dit qu'il n'a jamais passé les auditions pour le SNL et Lorne Michaels dit qu'il a passé les auditions pour le SNL et qu'il a été rejeté.
Ouais.
Et depuis des années, ils se disent non, il n'y a pas eu d'audition. S'il y a eu d'audition, donc on ne sait pas qui croire. C'est assez drôle.
Ouais, c'est assez fou. Mais de toute façon, il y en a vraiment beaucoup qui sont passés par là. Et donc, Lorne Michaels, tu viens d'en parler, qui est le producteur de Saturday Night Live, ramène Mike Myers à la fin des années 80. En 89, pour jouer au Saturday Night Live, et il lui dit, bah, ton personnage de Wayne Campbell, il est mortel, mais moi, je pense qu'il lui faut un sidekick, tu vois. Donc, c'est là qu'ils imaginent tous ensemble, avec les auteurs de Saturday Night Live, de lui mettre un sidekick légendaire, qui est donc Garth, et qui sera joué par Dana Carvey, donc, qui était à l'époque un des comédiens qui était toujours présent au Saturday Night Live dans l'équipe. Et en fait, au début, Dana Carvey, il dit, bah ouais, en fait, j'étais juste le mec qui était là, en fait. On m'a dit, vas-y, fais ce personnage-là. Il a dit, ok, c'est marrant. Et lui, il trouvait que ça ressemblait énormément à Bill and Ted, le film qui est sorti quasiment en même temps, qui est peu connu en France, mais qui est notamment joué par Keanu Reeves. Alors, je sais jamais si c'est Bill ou si Ted, mais bref. Où ça joue, il joue déjà un peu deux abrutis.
C'est un mix entre Wayne's World et Retour à le futur, Bill and Ted.
Ouais, voilà. Mais oui, voilà, pour le côté, on va dans le futur, parce que pour le côté personnage, c'est très Wayne's World quand même. Et donc, ils ont développé ces personnages-là, et en vrai, ça devient rapidement les préférés de tout le monde. Et j'ai noté qu'entre 89 et 92, donc quasiment tout le temps où Mike Myers est dans l'émission, juste avant que le film sorte, il y a eu 21 apparitions de Wayne et Garth, qui présentaient comme ça des morceaux, qui parlaient de leurs goûts musicaux, et aussi de leur goût de cinéma aussi, des sorties ciné. Et donc, en vrai, c'est en voyant que, en fait, quasiment tous les mois, il y avait une apparition de Wayne's World, comme ça qu'il l'avait appelé, qui était déjà donc une émission de télé locale gérée par deux ados un peu foufou qui adoraient le métal et qui avaient déjà un peu tout ce délire de excellent, enfin tu vois, genre Partisan et tout. Enfin, là, je l'ai revu en américain, donc j'ai pas les méga teufs et tout, mais en fait tout le vocabulaire il était déjà présent. Et en fait c'est là que Lorne Michael il se dit, hey, si on en faisait un film, parce qu'en fait Lorne Michael, le producteur, a toujours pensé que les personnages de Saturday Night Live pourraient devenir des films. D'ailleurs, question, connaissez-vous le premier film qui a été tiré de personnages qui viennent de Saturday Night Live ?
Oui, c'est les Blues Brothers.
Exact, ouais. Exact. C'est les Blues Brothers qui sont en fait le modèle de Lorne Michael, parce que ça a cartonné en fait. C'était un des seuls films donc, qui est sorti en 1980 avec Dana Croll et John Belushi. Tout le monde connaît ce film réalisé par John Landis, où il joue en gros, y en a un qui sort de prison, l'autre qui veut sauver, enfin tous les deux ils veulent sauver leur ancienne orphelinat en faisant des concerts à travers le monde et en se faisant poursuivre par la police. Et en fait, bah, c'est finalement sur ce type de duo que Lorne Michael se dit, bah, c'est peut-être le moment avec Wayne's World de ressortir ce même profil, parce qu'on n'a jamais réussi à le refaire depuis 1980. Mmh. Et ça va réussir, vu que Wayne's World sera le plus gros succès d'un film tiré d'un sketch du Saturday Night Live, avec plus de 110 millions de recettes, je crois, sur la première année. Et c'est là que Lorne Michael se dit, pendant les années 90, eh ben, si on partait sur en faire plein, en fait, des films comme ça. Et là, c'est là que ça se gâte. Parce qu'il y a déjà la Wayne's World 2. Qui aime Wayne's World 2, ici ?
J'aime bien.
Moi, j'aime bien aussi. Ouais.
C'est du fanservice, on va se dire.
Oui.
La moitié des blagues, elles marchent moins.
Steven Tyler dedans.
C'est vrai. Il y a beaucoup de caméos. C'est ça, en fait, le truc. C'est qu'ils se sont dit...
Et
bon,
Christopher Walken,
déconner.
Surtout.
C'est vrai.
J'aime bien le
jeu. Leno.
En fait, le premier était réalisé par donc Penelope Spheeris. Ouais. Et sur le tournage, il y avait des désaccords entre Mike Myers et Spheeris. Ce qui fait que Mike Myers a poussé pour avoir un autre réalisateur sur le plateau.
Yes.
Mais ça a moins marché, ce qui fait que Penelope Spheeris était en off assez contente de l'insuccès de ce film.
Du coup. Ouais, ça m'étonne pas. Mais oui, en général, tout le monde dit qu'il est un peu moins bien ou que c'est du fan service et que si t'as kiffé le premier, il y a des trucs que tu vas bien aimer, genre l'Indien Zarbi à moitié à poil au milieu du désert. Mais sinon, au fond, bon, c'est quand même un peu moins bien. Et après, Lorne Michael s'est dit, on y va, on va faire plein de films. Et alors, en 1993, donc la même année de Wayne's World 2, il sort Conehead. Vous avez déjà vu ce film ?
Oui, bien sûr.
Je l'ai vu, oui.
Alors, Conehead, c'est quand même... Là où il a fait une gymnastique mentale incroyable, c'est que c'est un sketch, normalement, de 1977, avec déjà Dan Aykroyd. Et vu qu'il se dit, ouais, Dan Aykroyd, maintenant, il est devenu super important avec Ghostbusters, avec plein d'autres trucs, il s'est dit, venez, on refait ce fameux film, Conehead. Ils avaient déjà essayé de le sortir en série dans les années 80 à la télé. Ça a été un flop, ça n'a pas marché. Le film, c'est un flop, concrètement.
Le film, il est dur à finir. Hein.
Ouais, je vous le dis, ça juste le pitch pour ceux qui ne connaissent pas ce film. C'est
déjà le poster par en couille,
c'est légendaire.
Déjà, le poster, c'est une galère, mais...
Non, mais rien que ça. Envoyé de la planète Rémulac, Beldar et Primat survolent le Machu Picchu quand une fausse manœuvre les envoie se cracher à New York au milieu de l'East River. Missionnés pour envahir la Terre, ils se retrouvent contraints à mener l'existence d'un couple de banlieusards américains pour se faire oublier, alors qu'ils ont des têtes quand même très allongées, et échapper ainsi aux agents du gouvernement qui sont à la recherche. À leur recherche, pardon. Donc en gros, c'est Men in Black, mais de l'autre côté. Et voilà.
Ouais, mais sauf qu'après, ils retournent dans l'espace.
Ouais, faut que tu racontes la fin. Moi, j'ai donné juste le pitch.
Ouais,
c'est ça, mec.
Sauf qu'en plus, on a donné envie à tout le monde de le voir, donc t'as spoilé quand même.
Excusez-moi. et en gros, dans toutes les années 90, il va y avoir énormément de films comme ça, dont certains vont être leadés par pourtant des grandes stars du Saturday Night Live et qui vont après avoir une grande carrière, notamment Will Ferrell, qui va faire en 98 Une nuit à Roxbury, que je ne vous recommande pas.
C'est un des sketchs les plus cultes de SNL.
À la base, c'est un super sketch, mais le film est quand même assez catastrophique. Et il y a plein de personnages comme ça, il va y en avoir quasiment un par an, et ils vont tous être des énormes flops au box-office, et même au niveau des critiques. Je cite juste It's Pat, qui est un film de 1994 qui, sur Rotten Tomatoes, a quand même 0%.
Aïe.
Voilà.
Oui.
Et qui est quand même assez notable pour, parce qu'on sait, enfin, on a appris que Quentin Tarantino avait travaillé en Soum Soum sur le scénario. Il n'est pas crédité, mais il avait annoncé qu'il l'avait fait. Après, il a re-annoncé qu'il ne l'avait pas fait, parce que c'était un film catastrophique. Et comme ça, il y a plein de films, et ça s'arrête en 2000, enfin en 98 et en 2000 avec Blues Brothers 2000. Est-ce que vous avez vu Blues Brothers 2000 ?
Non.
Tant mieux. Parce que franchement, ça valait pas le coup.
Après, il y a des films qui ont fait des flops, qui ont bien marché et qui sont devenus cultes avec le temps, ça arrive souvent. Par exemple, un film qui s'appelle Tommy Boy avec Chris Farley et David Spade.
Tout à fait.
il y a plein de maintenant de gifs, de mèmes cultes autour de ce film, ouais. Alors que ça avait fait un flop quand il est sorti.
Mais après, je pense à un truc, quand j'ai revu Wayne's World, je me disais, je sais pas si les jeunes de maintenant, ils vont rigoler. Hein.
Ouais, bah, non.
Je pense que c'est un.
Je pense, mais, que c'est, mais c'est un peu comme la Cité de la Peur, je pense, tu vois, ou Les Trois Frères, tiens, par exemple. Tu vois, c'est de l'humour qui est quand même très sur des répliques et des situations qui, à mon avis, n'existeraient plus maintenant.
Après, il y a quand même un parallèle intéressant avec ce qui se passe quand les youtubeurs passent à la télé. Ouais. Dans Wayne's World, qui quand même reste vachement d'actu, si tu regardes bien, c'est des mecs qui font une émission cool chez eux, et un jour il y a un annonceur qui dit « T'inquiète, rien ne va changer, ça va être pareil, sauf que ça va être chiant,
je
et avec un
Webedia.
Super générique bien fait. » Non, je parle pas de Webedia, mais ça arrivait quand même plein de fois quand ils ont dit « Et maintenant, on arrive à la télé », et à chaque fois tu fais «
Ouais.
Mais moi, je parle de Webedia parce que je trouve quand même qu'il y a un parallèle en mode on fait ça en version homemade.
C'est nous et Van der Hoof.
Mais dès qu'il y a quelqu'un de gros qui arrive derrière, bah, il veut que ce soit plus lisse parce qu'il y a les marques, il veut que ce soit comme ci, comme ça. Donc il y a un vrai parallèle aussi, c'est vrai.
Ah, c'est vrai, sur l'histoire du film en elle-même, ils sont allés plus loin. C'est pour ça, on l'a vu aussi que le film, comme celui des Blues Brothers, ça aurait été ce qu'on lui a marché. Mais voilà, en tout cas, les films des sketchs de Saturday Night Live n'ont pas toujours été des grands succès. Il y en a qui se regardent bien, comme tu dis, Tommy Boy, qui est en français d'ailleurs un nom assez incroyable. Je voulais juste vous le stipuler. Je crois que c'est, attends, Le Courage d'un Con. Voilà.
Ah ouais, j'ai jamais entendu parler.
Bah voilà, tout le monde a envie de voir ce film, non? Voilà, bah, je vais finir avec ça, je pense que c'est.
Alors là, on parlait du SNL. Qui sont les humoristes américains qui vous font le plus rire, Pénélope?
Oh, c'est dur comme ça.
C'est dur, hein. Je vous laisse réfléchir autour de la table.
Après, il y a le pape, quoi. Il y a Will Ferrell. Après,
pour toi, c'est le pape. Ah, parce que récemment, tu avais posé une question, tu avais dit Will Ferrell ou Steve Carell.
Ouais, parce que j'ai rematé tout The Office. Maté, parce que j'avais maté que la première saison. Là, j'ai tout vu. Et Steve Carell dans The Office, il est incroyable. Ouais. Et on peut se poser la question, parce que Will Ferrell, il vient dans The Office. Bon, bah, il est moins à sa place, tu vois.
Après, c'est pas sa série.
Mais c'est pas sa série. Ouais. Sauf que Will Ferrell. Disons que Will Ferrell, je peux tout regarder, j'adore à chaque fois. Quoi.
Ouais.
Et Steve Carell, aussi.
Mais c'est dur. Steve Carell, j'ai l'impression qu'il est sur un registre plus touchant aussi que Will Ferrell.
Ouais,
peut-être.
Exact. Mais il a fait, comment ça s'appelait, Bienvenue Marwen, comment ça s'appelait, ce truc-là?
Oui, le film de Zemeckis.
Le film où il a déjoué, là.
Ouais, et même là, le film où il joue le père de Timothée Chalamet récemment, je sais pas si vous l'avez vu.
Oui, j'ai pas vu.
Mais il est vraiment touchant.
En
et même
fait,
dans...
il est bon dans tout. Hein. À chaque fois que tu sors du registre de la comédie, il est trop bon. Ouais. Comment ça s'appelait le film où il jouait l'entraîneur hyper flippant?
Bien sûr, Fox Catcher.
Ah oui,
quel Fox Catcher, incroyable. Oui, bon, c'est pas le même registre.
Alors, surtout, personne ne parle de Little Miss Sunshine aussi.
Bon, alors, Will Ferrell est le plus marrant. Mais il y a aussi notre ami, Danny McBride.
Ah, je l'adore.
Ah ouais,
Danny McBride. Ouh,
pour Eastbound and Down, moi je dirais
Danny. Eastbound and Down, c'est tellement drôle. Ah, c'est mon chef à moi, c'est Larry David. Je pense que personne ne me fait plus rire que Larry David, je crois. Pénélope, est-ce que tu as eu le temps d'avoir des humoristes comme ça qui te reviennent en tête?
Non, parce que j'écoutais et du coup je réfléchissais pas. Parce qu'en même temps, tu veux que je réfléchisse, il faut arrêter de me parler pendant 10 minutes.
Il y a une humoriste que j'aime beaucoup. À chaque fois j'oublie son nom, mais elle joue dans Flight of the Conchords. C'est la fan un peu folle.
Sûr. Et elle joue dans aussi La Semaine en Urse.
Exactement.
Ouais.
Elle est tellement drôle. Il faut que je retrouve ce nom. Attends, je vais essayer de le retrouver. Aurélien, toi.
Moi, j'aime bien les vieux. J'avoue. Genre Chevy Chase, Steve Martin. Non, mais c'est j'aime bien, tu vois.
Ouais, Buster Keaton.
J'aime bien quand il parle pas. Tu vois, j'aime bien quand il a changé de parole. C'est au moins, ça reste la même chose. Non, mais c'est vrai que là, j'ai pas mal. Justement, je suis retombé dans les vieux sketchs du Saturday Night Live. Je pensais vraiment être à côté. Mais je trouve que dans les années 70, il y a eu beaucoup, beaucoup de comédiens américains qui étaient hyper intéressants. Et que moi, que je regarde encore maintenant avec énormément de plaisir.
Mais voilà. Moi, ce que j'ai toujours retrouvé.
Sinon, Seinfeld quand même. Bon.
Ouais, Seinfeld.
Bon.
Seinfeld.
Bon. Kristen Schaal, l'actrice.
Ouais, très bonne.
Parce que parfois, il y en a qui disent ouais, je me tape des barres devant Chaplin. Genre, je trouve ça très beau, etc. J'arrive pas à me taper des barres devant Chaplin.
C'est difficile, quoi. Ça fait pleurer un peu. Buster Keaton, plus. Buster Keaton.
On l'a vu, c'est sur une peau de banane. C'est genre, tu tapes une barre énorme, tu sais, bon.
Ouais, c'est ça. Alors, je profite de la présence de Pénélope pour vous conseiller trois films qui sont plus ou moins issus de BD, ce qui vous permettra peut-être de découvrir quelques auteurs et films que j'adore. Et comme autour de la table, il n'y a que des amateurs de BD, Pénélope, Guillaume et Aurélien vont probablement être en phase avec les films que je vais citer. Le premier, c'est Ghost World, film sorti en 2001 et réalisé par Terry Zwigoff. Film porté à l'écran par Scarlett Johansson, Steve Buscemi et Thora Birch, qui suit deux jeunes filles de 19 ans, complètement sarcastiques et isolées des autres, avant que l'une d'entre elles ne rencontre un disquaire interprété par l'excellent Steve Buscemi. Donc, ce film est tiré d'une BD du même titre, écrite et dessinée par Daniel Clowes. Est-ce que quelqu'un a envie de nous décrire le style de ce Daniel Clowes, Pénélope?
Est-ce que quelqu'un, Pénélope? Oui, Daniel Clauss qui était consultant sur le film. C'est pour ça que le film est bien. Par rapport à pas mal d'adaptations de BD où les auteurs se disent « Ah, tu sais, moi j'ai pris le chèque et j'ai rien à voir avec ça. » Là, il a été hyper vigilant. C'est pour ça que le film est super. Enfin, je ne sais pas si vous l'avez en tête, ce film, mais ouais. Dès le générique, il est extraordinaire, quoi, avec la musique indienne et le travelling dans les
Il avait aussi adapté Wilson, une BD de Daniel Clauss, avec...
Woody Harrelson.
Woody Harrelson, exactement.
Mais surtout, j'ai l'impression que souvent, les auteurs de BD souhaitent être consultants sur les films pour pas que leur œuvre soit travestie.
Il y a deux écoles. Hein.
Ouais.
Ouais. Il y a l'école « Je prends le chèque » et l'école « Je veux veiller à chaque détail du décor ».
Ouais. T'es quelle école, Pénélope ? Dis-nous tout.
Bah, moi, je suis vraiment l'école « Je prends le chèque », très honnêtement. Parce que j'ai pas du tout envie de faire de film.
Ouais.
Mais au moins, je le sais. Quoi. Je me dis, il y a des gens qui font ça super bien, go, c'est génial. Mais je peux comprendre, par exemple, ça n'a rien à voir, mais Julien Niel, qui est l'auteur de « Lou », il a fait le film, il a fait les décors, il a fait tous les accessoires, il les a fait, vraiment. Mmh. Et du coup, le film, on aime ou on n'aime pas, mais il est méga homogène. C'est vraiment lui tout le long du film, quoi. Mmh. Ou Riyad, c'est tout, qui fait ses films lui-même aussi. Mmh. Enfin, c'est bien quand t'as envie de faire des films. Mmh. Et si t'as pas envie, il faut pas faire chier le réel. Bref, Ghost World. tu veux dire son style de dessin ?
Ouais, c'est un style qui est très précis, très fin.
Il a le style des dessinateurs indé américains, c'est-à-dire ils sont très réalistes. Parce qu'ils ont quand même lu des comics, quoi. Donc ils dessinent de manière hyper réaliste. Mais c'est très propre. C'est comme toute cette mouvance-là de Tomin et de tout ça. C'est un dessin qui est hyper propre, assez figé. Il y a très peu de mouvement. Et en même temps, il a vraiment l'œil pour la réalité des États-Unis. Il a le détail de la gueule du vieux dans le diner. Enfin, il a vraiment un truc mi-glauque, mi-comédie tout le temps qui est...
Ouais.
Qui est assez fou. Et aussi, le truc pour moi qui est fort dans Ghost World, c'est que, enfin, je me souviens quand je l'ai lu, j'avais rarement vu des personnages féminins aussi bien écrits, et pourtant par un homme. Et vraiment, le personnage de Enid, c'est un personnage hyper important pour plein de jeunes filles à l'époque, quoi.
Était
vraiment.
Et surtout, j'ai l'impression aussi que c'était des personnages qui changeaient des personnages féminins de 19 ans qu'on pouvait voir à l'écran. Par exemple, comme des films qui était assez grand public, comme Clueless, par exemple. Mmh. Et c'est un peu aussi ce qui s'était passé avec ce dessin animé dont j'oublie le titre, avec...
Daria.
Daria, voilà.
Ouais. Ah ouais,
il y avait un truc un peu qui changeait, tu vois. C'était pas genre les filles hyper cool ou pom-pom girl
Daria,
du lycée.
Daria, c'est vraiment dans le même délire, pour le coup.
Ouais, voilà. C'est pour ça que je pense à elle. Et Daniel Clauss, il y a aussi ce côté, parfois, couleur très pastel, très années 50.
Mais après,
tu parlais de Diner tout à l'heure.
Il a pas fait que ça, parce que si vous regardez il écrivait dans un fanzine qui s'appelait 8-Ball. Et vraiment, il a fait tout type de dessins. Il a vraiment fait des petits cartoons. Après, il a fait des dessins plus, effectivement, comme Tomin, etc. Mais c'est un auteur que j'adore. Voilà, c'est ça ma conclusion.
Et ça continue à être bien, même après, à chaque fois qu'il sort un bouquin, il a un niveau de qualité d'écriture qui est presque énervante. C'est toujours super, tout ce qu'il fait encore maintenant.
Et alors, en off, tu me racontais une petite anecdote. Qui était que tu avais partagé la scène avec lui?
Pour moi,
Daniel Clauss, c'est une méga star
du
dessin.
Moi aussi, mais j'imagine pas dans quel état j'étais. Et c'est pire que ça. Je faisais un panel où j'étais entre lui et Rémi Hernandez et Gilbert Hernandez, quoi. Donc, j'arrêtais pas de me dire, mais qu'est-ce que je fous là? Vous savez qui je suis? Mais je suis personne. C'était fou. Et pour eux, c'était, je sais pas, il y avait une Française qui était là. J'ai fait un panel avec eux. Et j'essayais de pas glousser et de parler quand même, mais c'est impossible. Une grosse fan.
Ouais, et ce que tu me disais, c'est que moi, dans mon imaginaire, je pensais que c'était une méga star. Enfin, c'est une méga star de la BD, mais que parfois aux conventions, ça se bousculait pas vraiment aux tables. Ouais.
C'est fou comme ces gens sont niches dans leur propre pays, quoi. C'est d'ailleurs super si tu veux des dédicaces, quoi, parce que dans les conventions, il y a pas grand monde devant eux. C'est fou.
On veut tous la BD de Daniel Clauss signée.
Ouais, grave.
Ce serait cool.
Mais il fait pas de dessin dans les bouquins. Il écrit juste.
Mais déjà, je sais qu'au Japon, c'est comme interdit. Ils veulent pas les mangakas, c'est ça. Ils veulent pas faire de dessin.
Ouais.
Ouais. Apparemment, c'est une offense de demander un dessin à un mangaka.
Oh, ils sont chiants.
Attends. On va remettre les choses au clair. Quelle est l'offense?
Je veux faire un dessin. Wow. Et toi, du coup, Pénélope, est-ce qu'on te demande souvent des dessins dédicaces?
Eh ben, aux États-Unis, c'est payant.
Ah ouais.
Ouais, en fait, parce que tu sais, ça se passe pas comme c'est pas comme un Angoulême où t'as tous les gens qui font la queue et tout ça. Tu signes le livre et après il y a la Artist Alley qui est un autre endroit où les dessinateurs vendent leurs dessins. Ils viennent avec leur bâche, leur kakémono et tout ça et ils vendent leurs dessins. Donc vu qu'ils les vendent 50 balles, ils vont pas t'en faire un gratos dans ton livre de mettre plus loin. Donc les premières fois que tu vas, il écrit, il dit c'est pour qui, Pénélope, il signe, puis toi tu restes, t'attends, tu fais.
Aïe.
Puis il dessine pas en fait. Donc tu reprends ton livre puis tu rentres chez toi. Et quand j'ai commencé à faire des dédicaces là-bas, j'ai découvert le bonheur de faire des dédicaces sans faire de dessin.
Ah, cool.
Quel bonheur. C'est les vacances, quoi. Tu signes juste, c'est cool.
Et j'ai vu un truc qui est assez émouvant dans tes stories, c'est que parfois, t'as des fans qui t'envoient des dessins.
Oh, des enfants.
Ouais, des enfants. Ça doit être méga émouvant, ça, du coup, non?
Ah ouais, c'est dur. Après, je pleure en dédicace, pour le coup. Ils me font des petits trucs en Lego, des trucs comme ça, et ça me fait vraiment pleurer. Ouais.
Des trucs que tu jettes, quoi, après?
Non, j'ai une enveloppe.
Ah, ok.
Tu sais, je me souviens toujours, vous vous souvenez d'un épisode des Simpsons où Marge a écrit à
Ringo Starr.
Ringo
Starr, bien sûr.
Et qu'il est chez lui, il a des espèces de sacs de couleurs jusqu'au plafond. Il dit, eh bien, je réponds toujours à toutes les lettres qu'on m'a écrites. Et je pensais à ça ce matin, parce que je rangeais des lettres de petites, justement, trop mignonnes, avec des petites patouilles de... vraiment adorable. Et je me dis, ça se trouve, quand je serai vieille, je serai comme dans l'épisode des Simpsons, j'aurai des sacs de lettres de petites filles qui datent des années 2020. Voilà, ce sera 2020. Super.
Tu leur répondras 30 ans après.
Alors, le réalisateur Terry Zwigoff, on le retrouve aux manettes d'un de mes documentaires préférés, sobrement appelé Crumb, sorti lui 7 ans avant Ghost World en 1994. Dans ce docu, on suit le parcours de Robert Crumb, un des plus grands auteurs de la BD Underground, souvent une influence pour plein de dessinateurs. Documentaire qui nous permet de mieux comprendre son art et ses thématiques et qui a obtenu de nombreux prix, dont le grand prix du festival de Sundance en 1995. Crumb, c'est un autre style que Close. Les dessins sont plus âpres et l'ensemble est très nostalgique et parfois misanthrope. Je sais que Guillaume, toi, t'adores aussi Crumb.
Crumb, notamment, il a refait la genèse. Il a fait un livre sur l'histoire de la religion que j'ai pas fini. Je suis désolé parce que le thème, je l'ai acheté. J'ai fait ouais, mais le thème, en même temps, j'y arrivais pas. Mais c'est vrai que j'adore ce gars. Et il a fait pas mal de pochettes d'albums aussi. Il a fait une pochette pour comment, attends, que je me souvienne. J'ai trop Tool, c'est comme ça qu'on dit.
Ouais. Le flûtiste.
Le flûtiste.
Oui. C'est...
Ah bah c'est ça.
C'est qui est flûtiste.
Voilà.
Mais ça c'est cool d'avoir ces dessins. Je sais que Tomine l'a aussi fait pour Yola Tengo, un album de reprise, il avait dessiné pour eux. C'est toujours très cool quand un de ces dessinateurs te dessine ta pochette.
C'est génial.
Crumb, Penelope, c'est un dessinateur que t'aimes?
Non, pas trop.
Ouais, pas trop.
Non, vraiment. Je sais qu'il est hyper important parce qu'il a permis à plein d'auteurs d'exister, de trouver leur style, mais déjà c'est... Pardon, c'est vraiment hyper misogyne. Donc j'ai jamais trop adhéré. En revanche, grâce à lui, il y a aussi un mouvement contre. C'est marrant parce que eux, ils avaient vraiment fait ça en réaction au conservatisme et puis à la censure américaine. Et après, il y a une BD underground qui s'est créée en réaction à la BD underground. Mmh. C'était la BD des meufs, en fait, dont Aline Kominsky, sa femme, entre autres, et qui ont créé un collectif de BD qui s'appelait Tits and Clits. Excellent titre.
Ah, bravo.
Et elles, pour le coup, on les a envoyées en prison pour avoir fait des BD sur l'avortement et tout. Et c'était le pendant. Enfin, c'est pas que j'aime pas Crumb, mais déjà, ça m'a jamais émerveillée en termes de traits, quoi. Et puis, mais il y a tellement de dessinateurs américains qui disent qu'ils auraient jamais travaillé sans lui, que j'ai plus ce côté un peu le Godfather que vraiment lui, le fait que j'aime ce qu'il fait. Quoi.
Il a aussi adapté des textes de Bukowski.
Ouais, Crumb. M'étonne pas. Ouais.
C'est vraiment le pendant de l'autre côté, quoi.
Ouais, c'est
vraiment
autre
chose que Tits and Clicks.
C'est vrai qu'il y a misogyne, mais aussi on sent un truc vraiment très misanthrope dans les BD de Crumb.
Il y a un film sur Netflix, alors j'ai oublié le nom de l'acteur, qui est connu. Attendez, je vais pas le retrouver. Mais c'est un film sur la vie de Crumb et sur ses débuts, etc. C'est hyper intéressant. Voilà.
Ok.
J'ai pas d'autres infos.
C'est vrai que sans le nom du mec, l'anecdote manque.
Ouais, ça manque de piment, mais...
Aurélien, toi, Crumb, tu lis un peu Crumb?
Ouais, moi j'ai fini la jeunesse.
Ah ouais?
D'ailleurs, c'est vrai que je me suis dit que c'était catastrophique, cette histoire.
Bah ouais.
C'est que de l'inceste, des meurtres, à ne plus savoir qu'en faire. Enfin, c'est catastrophique. Vraiment, c'est basé sur des trucs catastrophiques. Mais sinon, ouais, j'aime bien. J'aime bien Fritz the Cat, en fait.
Ah oui.
Lui, ça, non? On est d'accord?
Oui.
Bon, ouais. Parce que des fois, je me trompe. Et j'aime bien tout ça, ouais. tout ce qui a été créé avec Rav Bashki, tout ça, j'aimais bien.
Robert Crumb, on le retrouve également dans un autre grand film, American Splendor, sorti en 2003 et réalisé par Shari Berman et Robert Pulcini. L'histoire se concentre plutôt sur Harvey Pekar, un proche de Crumb qui n'a jamais su dessiner, mais qui savait raconter des histoires. Du coup, son imagination a été couchée sur papier par Crumb, qui l'a lancé dans le milieu, puis plusieurs autres dessinateurs et dessinatrices. Et ce qui est intéressant avec ce mec très singulier, c'est qu'il n'a jamais pu gagner sa vie avec la BD et qu'il a gardé son job de documentaliste toute sa vie, tout en étant de plus en plus culte. Il était très souvent invité au Letterman Show avant de revenir au boulot le lendemain matin à 9h. Harvey Pekar, encore une fois, c'est une envie de dessiner le pessimisme avec encore ce côté misanthrope. Vous êtes familier avec Harvey Pekar ou pas? Parce que moi, American Splendor, c'est un de mes films préférés. Et j'avais trouvé ça intéressant parce que moi, par exemple, je fais partie des gens qui ne savent pas du tout dessiner. J'ai vraiment une admiration pour les gens qui savent dessiner, parce que moi, c'est vraiment le cliché du rond avec les traits pour faire un bonhomme. Je ne sais pas faire plus que ça, en fait. Et quand je vois des gens dessiner, moi, je trouve ça incroyable parce que... D'ailleurs, Benel, il y a une question que je me pose. Est-ce que c'est inné ou est-ce que c'est une technique, le dessin?
C'est les deux, bien ouais. sûr. et ce Bravo. Sera tout pour
c'est
moi.
Une belle
non, bah, tu sais, tout le monde dessine depuis qu'il est petit. Tu dessinais quand tu avais 3 ans.
Ouais.
Voilà. Et puis après, tu arrêtes. En général, fin de primaire, tu arrêtes de dessiner parce que on passe à autre chose, tu vois. Et puis il y a ceux qui continuent, en fait, qui dessinent pendant le collège, qui dessinent un peu les profs. Tout le monde trouve qu'ils sont cool parce qu'ils ont un truc cool, c'est qu'ils savent dessiner. Mmh. En général, d'ailleurs, ils ont que ça de cool, les gens qui dessinent, tu vois.
ils ont tout mis là-dedans.
Bah ouais, c'est souvent les non-cools, en fait, quand même. Et puis après, si jamais tu veux perfectionner ça, tu peux prendre des cours. Il y a aussi, moi, je connais plein d'auteurs de BD qui sont autodidactes. Moi, j'ai pris des cours parce que ça me rassurait.
Mais à quel moment t'as senti que tu savais dessiner ? C'est un truc que tu as réalisé sur le tas ou
Non, il n'y a pas de moment où tu dis que tu ouais. sais dessiner, mais il y a des moments où tu te dis ça ne me dérange pas du tout de faire ça pendant 15 heures. Ça, vraiment, ouais. le temps passe très vite quand je dessine, ce qui est plus important que de savoir bien dessiner
mais
quand
surtout,
tu veux en faire ton métier.
Faut trouver ton... Enfin, je veux dire, toi, tu as vraiment trouvé ton style de dessin ?
Mais comment non, mais en fait, quand tu dessines tout le temps, ton style, il existe tout seul. Tu recopies des trucs un peu quand tu es ado, tu vois, des trucs que tu aimes bien. Mais en fait, ta façon de dessiner une bouteille... intuitivement, en fait, c'est ça ton style. Et après, toute ta vie, tu vas améliorer ta bouteille. Elle va être de plus en plus stylée, mais elle sera toujours plus ou moins la même que quand tu avais 6 ans, en fait. Mmh. Donc, ton style, c'est juste, à force de dessiner, tu as un style, mais tu sais, c'est comme ta voix. T'en as pas 12, en fait. Quoi.
C'est comme ton écriture, par exemple.
C'est exactement. C'est même mieux comme métaphore.
Parce que moi, perso, j'écris comme un porc, en fait.
Mais oui, mais voilà, ta façon de faire les L, peut-être, et ben même si jamais tu t'appliquais, il y aurait toujours un petit air de famille avec ton L du début.
Mais pas vraiment. C'est mon problème. C'est
que moi, l'écriture. Tu fous en l'air toutes mes théories. Donc.
Mon écriture, elle ressemble à rien. Il n'y a aucun L qui se ressemble. Mais bon, voilà, après, on ne parle pas
et
de moi.
Et bien, tu aurais pu être docteur. Écoute, oui, c'est pas mon problème.
Est-ce que tu te souviens du moment où tu as eu une sorte de déclic qui t'a fait dire ah, bah, en fait, cette façon, enfin, ce don de pouvoir bien dessiner, bah, je peux l'exploiter et peut-être en faire mon métier. Est-ce que tu te souviens de ce moment-là?
Ah, bah, la première fois que j'ai gagné de l'argent avec. Hein.
Ouais.
C'est un bon déclic, ça. Quand tu dis...
ouais.
D'accord, donc en fait, j'ai pas besoin de rester debout. De prendre le RER le matin, de porter des trucs lourds, de parler à des gens, et je vais quand même être payé en faisant le truc que je ferai gratuitement de toute façon.
D'ailleurs, ça m'amène une bonne question. Est-ce que vous vous souvenez du premier cachet que vous avez eu grâce à quelque chose d'artistique ? Parce que normalement, on s'en souvient de ça. La première fois, on se dit waouh, je gagne de l'argent pour ce que je viens de créer, ça, c'est incroyable.
Moi, c'était par la musique.
Ouais.
C'était avec Emma Domas,
ouais.
à la batterie.
Putain, c'est marrant, je pensais à elle hier, je me demandais ce qu'elle devenait.
Ben, va bien. Non, la vue dans le sud, bon, on n'est pas là pour
c'est
parler d'elle.
C'est trop
bizarre. Mais non, mais ouais, du coup, en fait, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que c'est comme un truc que je voulais toujours faire. Donc, je voulais gagner de ma vie en faisant de la batterie. Avant ça, j'étais vendeur de bonbons à mi-temps et j'attendais. Et un jour, je me dis, bon, allez, j'arrête ça. Et tout le monde me dit, mais qu'est-ce que tu vas faire ? Si je vais voir. J'ai arrêté en juillet et en septembre, je devenais batteur pour Emma Domas. Bon, belle leçon. Et en fait, quand j'ai commencé à faire ça, je me suis dit, mais là, je suis en train de jouer de la batterie. Je suis en train de répéter, par exemple, je répète pendant 3 heures. Je suis payé 250 balles. Et j'étais là, mais c'est pas une vraie vie, ça existe pas, tu vois. Je faisais des trucs en playback, même quand je jouais pas, ils me payaient. J'étais là, mais attendez, parce que là, j'ai pas joué, j'ai même pas de pédale. Et je trouvais ça fou, et voilà, ouais, c'est vraiment ça. Ça, c'est incroyable.
Et là, c'était quoi, du coup ?
La toute première fois que j'ai été payée, bah ouais, ça doit être... Non, une fois, j'allais dire, c'est la première fois que j'ai bossé en pub, mais en fait, non, on avait fait une expo collective avec un collectif d'artistes, avec des mèches. Et en fait, j'avais vendu un original. J'avais vendu un dessin. Et vraiment, je me disais, c'est quelqu'un que ma maman a payé pour être gentille, tu vois. J'ai vu qu'il y avait une gommette sur mon cadre à moi, d'un truc qui avait été vendu. En fait, j'arrivais pas à comprendre, et presque ça me... Enfin, c'est le début de mon syndrome de l'imposteur, tu vois. C'est-à-dire, à un moment, elle va se rappeler... qu'elle a payé pour ça et elle va venir chez moi et demander à être remboursée et me rendre le dessin, tu vois. Et en fait, non, je dis, c'est possible que sans que ça me coûte un effort physique, sans que ce soit pénible et nul, je peux produire un truc qui me rapporte de l'argent. C'est quand même... Après avoir été serveuse, par exemple.
Mais c'est marrant parce que tout ce que tu viens de dire, c'est exactement ce que j'ai ressenti parce que moi, j'ai fait, avant de faire la vidéo, je faisais de la photo et je travaillais avec des groupes de musique. Et... j'avais pris Saint-Vincent en photo. Et du coup, mes photos étaient en vente sur mon site. Et je me souviens de la toute première personne qui m'a acheté une photo. C'était une photo de Saint-Vincent. Et c'était un type qui habitait à Chicago. Il m'avait envoyé un mail en me disant, bah voilà, j'aimerais t'acheter cette photo de Saint-Vincent parce que j'aimerais la mettre chez moi, etc. Ou je vais l'offrir à ma copine ou je sais plus. Et j'avais ce truc de me dire, bah, attends, t'es sûr que tu veux m'acheter ma photo? Parce que c'est un délire quand même.
Ouais, et avec la difficulté du coup de fixer un prix.
Oui, parce que tu me disais, c'est quoi ton prix?
Ça m'a pris une heure.
Mais je savais pas du tout combien la vendre, tu vois. J'ai vendu 300.
Pas mal.
Très très bas.
Je t'ai fait bien avoir.
Ah ouais. J'ai vendu tout. Je savais même pas si c'était bien ou pas. Je l'ai vendu 300, mais 300 c'était énorme pour moi.
Ouais, c'est fou.
Je me disais, waouh, je vais toucher 300 d'un mec qui veut acheter ma photo.
Surtout le truc de se dire, ok, il y a un mec à Chicago qui a ma photo chez lui. Wow.
Ouais. Ça, et après, sur Insta, il l'avait mis chez lui. Et je m'en rappellerai toute ma vie de cette photo dans son salon. Je me disais, c'est fou, c'est ma photo, c'est trop bien. J'étais trop content. Toi, Aurélien, c'est quand la première fois que t'as été payé pour un truc artistique?
C'est quand dans les années 2000 j'avais un label de rap là, mais je sais pas si c'était vraiment moi. Tu sais, pour moi c'était un truc de collectif, de groupe. Donc je me rappelle par contre la première fois qu'il y a un mec qui a dit venez faire un concert dans mon garage et je vous file 300 balles.
Trop bien.
J'ai fait ah ouais, tu as vraiment payé pour ça. Alors qu'on disait que des insanités, qu'on faisait des trucs marrants quoi. Mais
et ça c'est vraiment genre truc qu'on t'apprend pas à l'école, tu sais.
Non,
on dit alors tu vas faire une formation, tu vas faire ci, tu vas faire ça, tu vas faire ça comme métier, mais on dit pas peut-être que si tu trouves une bonne idée. Bah, ça pourrait être ton métier, ça on te le dit jamais, ça. Tu vois?
Ouais, après, c'était compliqué que ça devienne un métier pour moi. Après, maintenant, mais c'est vrai que de se dire, à un moment, tu vas gagner de l'argent en faisant ce que tu penses être juste un hobby, tu vois.
Ouais, c'est fou.
C'est comme si tu disais, tiens, je vais aller faire un footing. On va te payer, on va te donner 30 euros pour faire un footing. C'est bizarre, génial. Mec.
Mais d'ailleurs, dans l'imaginaire collectif des gens, quand tu fais un métier artistique, ils te demandent quand même ce que tu fais comme métier
ouais.
à côté.
Ouais, ouais, ouais. C'est toujours un hobby, quoi.
Toi, on te pose encore la question, non?
Plus poliment.
Ah ouais,
tu vois. Et du coup, ça m'a bien. Ce qui est une façon de dire. Du coup, comment tu payes ton loyer?
Oh là là.
Mais ouais, c'est toujours étonnant, mais parce que il y a plein de gens qui se sont jamais autorisés à imaginer en faire quelque chose aussi, quoi. Mmh. Donc quand tu leur dis, bah ouais, c'est comme si tu disais que t'es jongleur, quoi. Et ouais. Ils disent, ok, et t'en vis.
Wow. Il y a des jongleurs qui achètent des maisons. Hein. Enfin, je tiens à le dire quand même.
Tu connais un jongleur qui achète des maisons?
Ouais, carrément. C'est vrai.
Mais c'est vrai que moi, parfois, je reçois des messages sur Insta, carrément aussi de gens. Il y a un truc qu'on s'autorise encore plus sur YouTube. Genre, tu gagnes combien par mois?
Oui.
Je vais pas te le dire.
Ouais.
Concrètement. Et il y a un truc où, bon, bah, on peut lui demander, tu vois. Alors que si je vois un banquier, bah.
Ouais.
Je lui demanderai pas.
Le boulanger,
combien.
Ouais.
Ouais, tu vois, tu vas pas lui demander combien il gagne par mois, tu vois.
Le boulanger, tu fais jamais la remarque sur ce qu'il produit. Alors que sur YouTube, ouais.
Ouais.
Ouais, vrai, ta baguette, elle était quand même meilleure hier. Bon.
Ouais, exactement. Est-ce que lorsque tu dessines Pénélope, tu penses tes cases en fonction de films que tu as pu voir dans ta vie ou alors pas du tout? Comment ça se construit tout ça?
Alors non, c'est pas vraiment par rapport à des films. En général, les gens ils disent « Ah, tu fais quoi? D'abord t'écris ou tu dessines ?» Et en fait, quand tu fais une BD, c'est ni l'un ni l'autre. Tu penses une mise en scène, elle est hyper claire dans ta tête et après t'essayes de la décomposer à l'écrit. Mais tu penses pas « il entre ». Tu penses pas en didascalie du tout. T'imagines une scène d'action. Et puis à un moment, tu fais « ouais, et paf, ça pète, la porte s'ouvre, hop, il dit ça, oh, il se retourne, il est surpris et tout. » Et après, ton boulot, c'est d'essayer de mettre ça en image. Mais je pense que c'est pas... J'ai pas du tout de connaissances en réalisation, mais j'imagine que c'est assez proche. Tu penses vraiment en cadrage, en rythme, surtout, parce que tu maîtrises quand même pas mal le lecteur, vu que tu décides quand est-ce qu'il tourne la page. Tu décides les cases où tu as envie qu'il passe du temps dessus. Tu fais exprès, tu mets beaucoup de dialogues pour qu'il passe du temps. Tu peux aussi faire des moments où tu as envie qu'il aille plus vite et tout. Donc, tu penses en vitesse, en cadrage et après en expression et tout ça. Et en fait, tout le reste après, c'est du glaçage que tu rajoutes, quoi. Les dialogues et tout, c'est... Tu penses action-packed, tu vois. Ouais. Et du coup, certainement que je suis un peu inspirée par des films, mais je pense que ce sera dans ce cas-là par des films que j'ai vus vraiment hyper jeune. Et je pense que dans ce cas-là, moi, mon inspiration principale, c'était Xavri, par exemple.
D'accord.
Ce qui a fait que pendant hyper longtemps, j'ai cru que je voulais faire du dessin animé, d'ailleurs.
Okay.
Erreur, alors que la BD, c'est beaucoup moins cher.
D'ailleurs, j'avais revu The Mask récemment, et on en sent tellement l'influence Tex Avery dans le film, c'est fou. De tout ce que tu as publié depuis le début de ta carrière, quelle est l'œuvre que tu imaginerais le plus sur grand écran? Tout ce que tu as fait aujourd'hui. Tout ce que tu as fait depuis que tu as commencé.
Alors, c'est pas que je l'imagine, mais il y en a une qui commence en tournage en octobre.
Ouais.
Ouais. C'est une BD que j'ai fait avec Boulet il y a presque 10 ans, qui s'appelle La Page Blanche, qui va être adaptée là. Je ne sais pas si c'est celle que j'imaginerais le plus, mais il y en a une qui est vraiment la maudite. C'est une histoire qui a été optionnée, je pense, 5 fois d'affilée, avec à chaque fois des options qui tombent, des trucs qui se reprennent. Ça se repasse entre toutes les boîtes de prod. C'était une de mes premières BD qui s'appelle Cadavre Exquis, et qui a failli être adapté, mais parfois on était vraiment genre à quelques jours de la prépa de tournage et à chaque fois finalement non.
Aïe.
45 pistes de casting différents pour jouer le héros et vraiment à chaque fois ça marchait pas. Et moi je suis pas tellement impliquée pour la raison juste mentionnée, le fait que je prends le chèque et que je m'en vais. Mais à chaque fois je me dis, à force, je commençais à me dire, mais je crois qu'en fait j'aimerais bien qu'il existe ce film. À force qu'on me dise, et pour le rôle titre, on a pensé, tiens-toi bien. Et du coup, je me disais ah ouais putain, ce serait hyper bien en fait. Et finalement, il se fait jamais.
Ouais.
Peut-être que je sais pas, peut-être qu'il se fera quand je serai vieille.
Bon.
Et comment tu réagis à ça justement quand on dit bah là, t'avais dessiné ce personnage-là, on a prévu que l'acteur, ça serait lui.
Bah souvent, je dis mais pas du tout.
Ouais.
Pas du tout. Et quand ils me disent alors fais-moi ton casting idéal à toi. Et évidemment que tu y penses quand tu dessines des personnages, pas parce que tu te dis qui pourrait l'interpréter, mais parce que tu penses à des gens que tu connais quand tu dessines quelqu'un en VD toujours. Mmh. Donc si c'est pas ton voisin, c'est un acteur ou tu vois. Et quand ils m'avaient dit alors on avait pensé, après c'est chiant parce que je donne pas de nom, mais bon, en gros, moi j'avais dit ah, alors si vraiment j'avais le choix, voilà à qui je penserais. Et tu vois les contraintes que tu peux pas imaginer, les contraintes de producteurs qui font. Ouais, alors elle est un peu tapée. Hein. Alors machin, il te plombe un budget tout de suite.
Parce que ah bah machin, il coule le film. En fait.
Ouais, c'est ça. En fait, tu dis oh, putain, mais en fait, on s'en fout de savoir si c'est un bon acteur. C'est genre, alors lui, jamais on arrivera à monter le financement, mais ok. Donc, ok, bon, c'est relou. Le milieu du cinéma est relou. Donc si c'était mon film, bah, ce serait un casting parfait, mais sinon. Mmh.
Et enfin, je termine avec mon auteur numéro 1, celui que j'admire par-dessus tout, Adrien Toumine, qui possède un style se rapprochant de celui de Daniel Clowes. Et qui a une faculté incroyable à raconter la solitude et aussi à rendre des histoires qui semblent somme toute banales, touchantes et extraordinaires. Je parle de lui car apparemment une de ses œuvres va être adaptée au cinéma par Jacques Audiard. Et en off, Pénélope, je te parlais d'Adrien Toumine et t'avais une anecdote délicieuse sur Adrien Toumine.
C'est pas une anecdote, c'est
un fact. Je m'en suis régalé, c'est un fact.
Il était mon voisin quand j'habitais à New York. Voilà.
C'est fou ça.
Oh, oui, wow. Je le crois, il faisait désœuvré voilà, au square avec ses enfants. Il a l'air de beaucoup s'ennuyer. Et d'ailleurs, il y avait une couve du New Yorker où il avait fait une illustration hyper marrante, je ne sais pas si vous l'aviez vue, où c'était un mec qui passe devant les stoop-sales, quoi, les trucs où on met ses trucs à vendre sur son pas de porte aux États-Unis et les gens prennent les trucs.
Oui, oui.
Et il en avait fait un où c'est un mec qui est auteur qui passe et qui, sur un truc comme ça, voit son bouquin à lui donné et qui, qui dégoûtait. Et c'était vraiment notre rue, c'était marrant. Et après, plein de fois, je me suis dit, un jour, on va s'asseoir côte à côte sur un banc et on va parler de notre vie d'artiste. Mais c'est jamais arrivé.
Tu l'as jamais parlé?
Bah, si, mais du coup, je lui ai parlé dans des trucs de boulot parce qu'on a fait des conventions ensemble et tout.
Ah.
Et je me disais, peut-être qu'à un moment, il va m'en connaître. Il va dire, excuse-moi, vous n'êtes pas cette autrice française que j'ai rencontrée au machin Cannes. Et non, jamais, parce qu'en fait, je pense qu'il regarde pas du tout les gens qui sont autour de lui.
C'est un rustre.
Mais il savait
non,
que.
Non, c'est un timide.
Il savait, donc, il savait pas que sa voisine était autrice de BD.
Non. Il savait pas qui je suis.
Ouais.
Il savait pas qui je suis.
Ouais, d'ailleurs, tu lui disais ça quand tu
le croisais en bas. Je suis tellement big chez moi, si tu savais.
Ouais, mais écoute, fallait lui dire, qu'est-ce que je te dis. Alors, s'il y a une chanson qui est vraiment associée à un film, c'est Bohemian Rhapsody dans Wayne's World. Et dans l'histoire, il y a pas mal de chansons qui, lorsqu'on les écoute, nous font instantanément penser à un film, Guillaume.
Tout à fait. Et j'en ai répertorié pas mal. Et pour vous, j'ai un jeu. Eh ouais, j'ai un super jeu, on va faire un petit blind test de chansons qui sont indissociables des films dont elles sont la BO. Mais pour corser le tout, de 1, je vais les chanter moi, et de 2, je les ai traduites en VF. Eh ouais mon gars. Ok, on commence tout de suite. Alors c'est parti, alors attends, je trouve la note. Ah, ok, alors attends. Oh putain, ça y est, cata. Alors, attends, faut que je me lance.
BTC, faut que je me lance.
Faut que je me lance. Dans le monde du show business, faire tomber toutes les firmes et arracher leur noblesse, faut que je me lance.
Ouais, ah oh ouais, BTC. Bien joué. Alors, attends. Avant, il y avait une tour vieillissante sur la mer.
Ah oui, j'ai le droit, si je sais.
Oui, tu peux.
Cécile.
Oh,
et donc c'est Batman Forever.
Oh, oui,
c'est le baiser d'une rose.
Elle est très
bravo,
forte.
Bravo, on est parti en 1994 avec Seal, Kiss from a Rose, et il a sorti la chanson en 94, et en fait, un an après, ils l'ont mise dans la BO de Batman Forever, donc pendant un an, elle n'a pas trop marché, et quand elle est sortie dans Batman Forever, elle a gagné 3 Grammy Awards, meilleure chanson, meilleur album, meilleure performance vocale masculine.
Meilleur film aussi.
Meilleur film, je vous rappelle quand même que donc, le refrain en français, ça fait « Bébé, je te compare au baiser d'une rose dans le gris, oh, plus je t'ai, plus je me sens bizarre. » Maintenant que ta rose pousse, une lumière sort du brouillard.
Bah moi je trouve que ça séduit.
Moi je l'ai très bien, j'ai très bien traduit surtout. Bon voilà, on enchaîne. Bah bravo, un point pour Pénélope. On enchaîne avec la deuxième chanson. Attention, est-ce que je la chante ou est-ce que je la lis? Bah je vais la chanter. Allez, c'est parti. Mais alors quand je la chante, c'est trop facile. Ça va aller très vite.
Au fond de la Louisiane, près de la Nouvelle-Orléans, tout au fond des bois, à côté des
buts. Tout...
Oui, oui.
Quelle chanson? Elle est forte.
Johnny Bigood.
Johnny Bigood.
Ah non, Johnny Bigood.
Mais un peu, j'ai pas envie de le dire parce que j'ai pas envie de t'interrompre quand tu chantes.
Bah tu veux, je vais en entier.
Vas-y.
Si tu peux l'interrompre rapidement.
À chaque fois, j'ai quand même traduit jusqu'au refrain.
Bah oui, c'est pour ça. Vas-y,
vas-y.
Bah non, mais voilà, c'est bon.
Non, c'est bon, j'ai plus envie.
Voilà, il y a une cabane faite de bois et de terre où vit un paysan nommé Johnny Bigood qui n'a jamais appris à lire ou à écrire bien, mais il sait jouer de la guitare comme au son d'une cloche. Vas-y, Johnny. Vas-y, Johnny. La chanson figure 7e plus grande chanson de tous les temps pour le magazine Rolling Stones et figure sur le Golden Voyager Record. Est-ce que vous savez ce que c'est ?
Non.
C'est le disque qui a été envoyé dans l'espace.
Ah,
et c'est la seule chanson de rock qui est dans l'espace. C'est Johnny B. Good.
Ouais.
Mais je crois que, si je dis pas bêtise, je crois que les Nuls avaient fait une vanne où ils avaient parodié justement Bad de Michael Jackson. Où on voyait Shabba, si je dis pas bêtise, où ils disaient je suis mauvais. Ça marche trop pas en français, tu vois.
C'était Weird Al Yankovic qui l'avait fait aussi. Ouais.
I'm fat.
Ah oui, ouais, I'm fat.
Et du coup, Johnny B. Good, pour l'anecdote, donc c'est une chanson autobiographique de Chuck Berry, puisque Good, c'était le nom de sa rue quand il était petit. Voilà, on va enchaîner avec la prochaine chanson, qui est indissociable du film qu'elle représente. Attention, sortez les briquets. Oh, mon amour, ma chérie.
C'est Ghost.
Oh là là,
ah, mais elle est trop forte, c'est incroyable.
C'est fantôme.
Ah ouais. Je sais pas si elle est trop forte ou si je chante trop bien. J'arrive pas à déterminer le voilà. J'ai faim de ton toucher, un long moment solitaire, le temps passe lentement et le temps peut faire tant de choses. Es-tu toujours à moi ? J'ai toujours besoin de ton amour, j'ai besoin de ton amour. Dieu veille sur ton amour pour moi. C'est évidemment la chanson de Ghost, Unchained Melody, sortie en 1955 pour la première fois. Et en fait, à la base, elle était déjà dans un film puisqu'elle était faite pour le film Prison sans chaîne. Et ça a été interprété par Todd Duncan en 1955.
Très
mais
bon
c'est en 1965 qu'elle va rencontrer le succès avec les Wright House Brothers. Et aussi, avant ça, Harry Belafonte qui l'a chanté aux Oscars en 1956. Sachez quand même que c'est une des chansons qui possède le plus de versions différentes de toute l'histoire des chansons du XXe siècle. Elles sont évaluées à 500 versions différentes, dont une de U2, une de Cyndi Lauper et une de Johnny. Eh ouais,
ah, c'est
et donc, évidemment,
c'est vrai que quand on l'écoute, on pense à Ghost.
Mais c'est pas c'est le père de Jean-Michel Jarre qui l'a écrite.
Ah oui.
Ah, Maurice.
Non.
Maurice. Mais si. Des Platters.
C'est Maurice.
Non,
c'est
non, non, il dit que c'est faux, apparemment.
Non. Non. C'est pas du tout vrai. Voilà. Merci.
Il est catégorique.
Je suis catégorique. Bah non, je fais des recherches, tout simplement. Après, bon, voilà.
Mais c'est qui alors ?
Comme on a qu'à dire ce qu'on veut. On dit ce qu'on veut, voilà. C'est une chanson de Richard Gottener. Voilà. Allez.
Ah, c'est ça, j'ai confondu.
Et donc, cette version ressort en 1990 dans le film Ghost, et elle se place évidemment numéro 1 des charts, surtout en Angleterre, en fait, que en Angleterre. Mais bon, bref, vous l'avez compris, c'était un gros succès, attention, ça va aller très vite. Ah, tu sais quoi, celle-là, je vais la lire. Comme ça, c'est plus dur. Si je dois rester, ce serait seulement...
Bodyguard.
Ah, mais oui,
oh là 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 là. Mais attends, tu lis ma fiche, quoi.
Non, je peux pas me taire sur Kevin Costner.
Ah ouais, ok, très bien. Bodyguard, évidemment, c'était une chanson qui n'était pas prévue dans le film à la base, puisque c'est une chanson de 1974 de Dolly Parton. Mmh. Et elle a été reprise par Whitney Houston en 92. Elle n'était pas prévue à la base, parce que Whitney Houston devait reprendre What Become the Broken Hearted de Jimmy Ruffin. Mais finalement, la chanson a été utilisée dans Beignet de tomates vertes. Du coup, ils se sont dit, bon, bah, laisse tomber, on va prendre celle de Dolly Parton. Mmh. Et ils ont bien fait, parce que ça a été un énorme carton mondial. C'est la seule chanson issue d'une bande originale étant restée aussi longtemps numéro 1 au Billboard. Seule chanson country à se placer numéro 1 des charts sur 3 décennies différentes. 74 à sa sortie, 92 à sa ressortie par Whitney Houston, et tristement 2012 après la mort de Whitney Houston. Et I Will Always Love You reste encore aujourd'hui la chanson chantée par une femme la plus vendue dans le monde.
Ah ouais ? Devant Céline Dion ?
Bah ouais, devant Céline Dion.
Dingue.
C'est fou, hein ?
Je crois que je l'avais dit dans le podcast la semaine dernière, je crois, que c'était la soundtrack la plus vendue de l'histoire.
La soundtrack
encore.
La plus vendue de l'histoire.
Et la chanson la plus massacrée en karaoké, probablement.
Oui.
Bon, ça dépend qui la chante. si je la chante, c'est catastrophique comment ça va aller vite. J'espère que les mecs vont prendre un point, parce que pour l'instant, vous faites massacrer.
Yes.
Écoutez bien ceci. Jolie femme, marche dans la rue.
Allez, merde.
Pretty Woman.
Pretty
elle
Woman
nous l'a offert de façon...
Pretty Woman 2.
Allez, merde.
Allez, elle est nulle. Dépêchez-vous.
Elle est naze.
L'interprète de cette chanson
Roy Orbison,
évidemment, et qui est ressorti. Donc, cette chanson est sortie en 64. Et évidemment, le film Pretty Woman a trouvé le nom du film dans cette chanson. Il est sorti en 1990. Et c'est le plus grand rôle à ce jour au box-office de Julia Roberts, chanson écrite par Roy Robinson. Oh, c'est dur à dire, hein.
On a Robinson,
Royer.
Roy Orbison parce que sa femme Claudette était sortie pour faire du shopping. Elle lui a demandé de l'argent pour les courses. Et quand elle est partie, son pote parlait, il a dit « Jolie femme n'a pas besoin d'argent ». Et là, il a fait « Jolie femme marche dans la rue ». Ils ont fait « Pop, 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 attends, attends, attends ». Elle est partie, et quand elle est revenue, la chanson a été écrite, composée, finie, terminée, énorme tube, bravo Roy Orbison. J'en ai une pour vous, je vais vous la lire, pour que ce soit plus dur, parce que si je la chante, c'est trop facile. Je me relève, de retour à la rue. J'ai fait mon temps, j'ai pris mes chances.
Rocky. Oh t'as dit quoi?
C'est Rocky, non?
Oh là là.
C'est Eye of the Tiger.
J'arrête de jouer officiellement.
Rocky 3. Eye of the Tiger. Je me relève. Ouais, c'est ça. Je me relève de retour à la rue. J'ai pris mon temps. J'ai pris mes chances. J'ai fait la distance. Je suis de retour sur pied. Juste un homme et son instinct de survie. Voilà. Tant de fois, ça s'est trouvé. Bon, bref, vous avez compris. Numéro 1 du Billboard pendant 6 semaines, un Grammy Award et la meilleure chanson au People's Choice Awards. Elle continue de plaire car elle a été téléchargée officiellement 8 millions de fois. Légalement depuis octobre 2003. Ça vous embouche un coin, ça?
Ah ouais.
Eh ouais, j'ai fait des recherches, mon vieux.
Il faut savoir que cette chanson, à la base, devait servir pour Karate Kid. Elle a été écrite pour Karate Kid et du coup, elle a été récupérée pour Rocky.
Voilà. Ah ouais.
Alors, je peux pas dire non, c'est le patron, donc c'était pas dans mes fiches, mais bon, pourquoi pas. Ok, alors là, bon, c'est là, ok. C'est dur à chanter.
Il faut la trouver une, Aurélien. Allez.
Je vais la chanter, allez.
Je suis catastrophique.
Alors, est-ce que je trouve la note?
Je connais pas la musique.
Ok. C'est dur, putain. J'avais des bleus et j'étais meurtri. Je ne pouvais pas dire ce que je ressentais.
Ah.
J'étais méconnaissable.
Baguette café, j'ai vu ta style.
Pas du tout.
Ok,
j'étais
d'accord.
Méconnaissable pour moi-même. Je me suis vu dans une glace et je ne me suis pas reconnu. Oh mon frère, vas-tu me laisser dépérir? Dans les rues de Philadelphie.
Ah bah oui, Bruce Springsteen,
Philadelphia Street.
Ouais, bah merci. Ah bah merci. T'as qu'à traduire
ce que
je dis. T'as qu'à traduire dans l'autre sens. Hein.
Ouais.
Philadelphia Street. Bruce Springsteen. Ah bah merci.
Quality Street.
Quality Street. En 1994, chanson composée et interprétée par Bruce Springsteen, Grammy Award de la chanson de l'année et Oscar de la meilleure chanson originale devant Philadelphia de Neil Young pour le même film dans la même catégorie.
Ah,
alors
c'est
que
qui
c'est probablement une des plus belles chansons de l'histoire. Philadelphia de Neil Young, incroyable.
Ouais.
Messieurs, dames, la prochaine chanson commence par des onomatopées que je m'en vais vous faire tout de suite.
C'est Don't You Forget About Me, mais je ne sais pas ce que c'est comme film.
C'est Breakfast Club.
Breakfast Club, il y a un peu partout. Ben non, il y a un peu partout. 1985, Don't You Forget About Me, ne t'avise pas de m'oublier. Ne. BO Breakfast Club en 85, composé par Case Forcey, proposé en premier lieu à Brian Ferry qui la refuse. Et elle est finalement interprétée par Simple Minds et termine numéro 1 au Billboard en 85. Bravo, quel tube! C'est la fin de Breakfast Club, évidemment. Alors j'en ai une autre. C'était un mariage adolescent et les vieux avaient fait leur bon vœu. On voyait bien qu'ils aimaient vraiment, vraiment la demoiselle. Et maintenant, le jeune monsieur et madame ont sonné la cloche de la chapelle.
C'est Pulp Fiction.
C'est forte.
Pulp Fiction avec You Never Can Tell.
Est-ce que de base, t'es forte à ce jeu ou tu te découvres un don pour ce jeu-là aujourd'hui?
Je suis imbattable au blind test. Ah, c'est mon seul super pouvoir dans la vie.
Non, ça reste à prouver parce que j'ai quand même un large.
Et je suis très bonne en VF aussi.
Bravo, bien, très bien. Et donc, c'est la vie, on dit les vieux, mais non, on ne peut pas vraiment prédire Pulp Fiction 1994 dans la scène du concours de twist entre Vincent Vega et Mia Wallace qui a été remise au goût du jour. Parce qu'à la base, c'est quand même Chuck Berry en 1964, évidemment, encore lui. Alors, c'était la dernière de ce jeu, mais on aurait pu citer Aerosmith avec I Don't Wanna Miss a Thing pour Armageddon en 98, indissociable du film. The Time of My Life de Bill Medley et Jennifer Warnes en 87, indissociable de Dirty Dancing. Une petite préférée pour moi. C'est You Make My Dream Come True de Alan Oss. Je sais pas si vous voyez cette chanson dans 500 jours ensemble. Vous voyez cette chorégraphie dans 500 jours ensemble? Gangsta's Paradise de Coolio pour Esprit Rebelle en 95.
Ah, Esprit Rebelle.
Mrs. Robinson de Simon & Garfunkel dans Le Lauréat en 67. Ghostbusters de Ray Parker Jr. en 84.
Toutes celles-là, je les mettrai pas au montage, c'est galère. D'aller toutes les chercher. c'est relou.
Voilà.
Le streaming, mais
fallait taper dans penser, parce que je pense aux gens qui disent bon, il a même pas dit Ghostbusters. Ben ouais, ben voilà. Et j'en ai une pour JB. Probably Me de Sting et Eric Clapton pour L'Infratel 3 en 92. Ouais. My Heart Will Go On, évidemment. Take My Breath Away. Calling You pour Bagdad Café.
Et
Tu l'as eu ton Baghdad Café.
Et il y a aussi Leave Your Hat On, très bien dit. Composé à la base par Randy Newman, mais rendu célèbre par Joe Cocker pour 9 semaines et demie en 1986 et Jean-Luc Reichmann pour la question coquine dans Attention à la marche. Et voilà, et donc, ma question finale, s'il ne devait en rester qu'une, quelle est votre favorite?
Ben moi, voilà, je dirais celle de Sting et Eric Clapton parce que je me souviens très bien du jour où j'ai vu L'Arme Fatale 3 au cinéma et je me souviendrai toute ma vie du générique où on voit les flammes avec le Lethal Weapon 3 se former et la musique de Sting et Clapton, ça me... J'adorais, puis après, je l'ai écouté pendant des années et des années. Mais celle de... j'avais ta style aussi, Calling You de Baghdad Café. Incroyable. C'est une chanson qui m'émeut beaucoup. Voilà.
C'est très très beau.
Vous?
Dans celle que t'as dite?
Non, une qui te vient en tête, une chanson indissociable d'un film. Après, si
bah
tu
franchement,
veux choisir...
j'ai regardé le flic de Beverly Hills la semaine dernière, c'est le meilleur thème. Hein. Ouais, et en plus, ils l'ont rentabilisé parce qu'elle passe 47 fois.
Non, il parle des chansons chantées,
c'est
je crois.
Chansons chantées.
Ça existe, il y a Crazy Frog.
Oui, non, mais d'accord.
Bah, c'est quoi le rapport avec Crazy Frog?
Bah, c'est la musique.
Bah, il a repris Crazy Frog.
Ça, c'est un thème. En fait, c'est une BO. Je parle pas d'une BO, je parle vraiment d'une chanson qu'ils ont mise dans un film.
Franchement, c'est hyper classique, mais la chanson de Ghostbusters, elle est tellement bien.
Ah ouais. Ouais. Et en fait, il l'a écrite, il était en galère, il trouvait pas de thème, et il a vu une pub à la télé pour un truc d'ératisation ou je sais pas quoi, et ils ont dit, ouais, qu'est-ce que vous allez appeler? Il a fait, eh ben, parfait. Il a fait, oh, il va à l'école. Ghostbusters, ça vous va? Ils ont fait, putain, mais c'est génial. Et voilà, bravo.
Mais tu vois, c'est drôle parce qu'à travers ce que tu dis, souvent, bah, les grandes chansons viennent de petits moments de la vie comme ça. Tu l'as dit tout à l'heure avec Ray Orbison.
C'est vrai.
Puis là...
Moi, j'ai déjà essayé de m'inspirer de petits moments de ma vie, mais pour l'instant, ça n'a pas vraiment pris. Mais bon, sait-on jamais.
Et toi, Aurélien?
Là, j'ai réfléchi en même temps que vous parlez. Je suis très nul à trouver, à associer. Mais je crois Bad Boys. Dans le film Bad Boys.
Ah ouais,
Bad Boys,
ah non.
Ouais,
je croyais que tu parlais, je crois que tu parlais de
Diana King. C'est ça, Diana King.
Mercy, Mercy, Mercy.
Ah, ouais, aussi, voilà. Ouais. Je sais pas, ça c'est direct, je pense. Ouais, bon, ça, il y a le titre du morceau et c'est le nom du film, donc bon, déjà ça aide pas mal. Mais ça, je crois que c'est pas mal.
Je me souviens pas, mais dans ta liste, t'as cité Aerosmith et Armageddon.
Ouais.
Ah ok, d'accord.
Ça, n'hésite pas à m'écouter.
C'est un extrait. C'est un extrait que tu dois mettre, celui-là.
Oui, c'est vrai, oui, je dois le mettre.
Ouais, t'as beaucoup de travail sur cette chronique.
Un jour, avec Guillaume, on s'était posé une question. On s'était dit, tu préfères vivre tout le reste de ta vie sans cinéma ou sans musique? Je sais plus ce qu'on avait répondu.
Réfléchissez
bien.
La réponse de JB, il dit à chaque fois, moi, sans musique, parce que dans le cinéma, il y a de la musique.
Pas la peine de le dire sur ce ton-là, parce que c'est une réflexion très constructive et intelligente.
Oui, mais tu vois ce que je veux dire. Si on te pose la question, c'est que tu dois choisir entre les deux.
Ouais. Bah, je choisis le cinéma, je t'ai dit. Et mon argument est le cinéma, parce que dans le cinéma, il y a de la musique.
Oui, non, mais alors, on enlève les musiques du cinéma.
Tu vas beaucoup trop loin dans tes clauses du contrat.
La musique n'existe plus ou le cinéma n'existe plus?
Je préfère que la musique n'existe plus.
Oh!
Et je garde le cinéma.
Bah, en même temps, tu dis quoi? Je préfère le cinéma. Oh!
Je garde la musique.
Ah ouais?
Aurélien,
ouais,
tu gardes quoi?
Moi, je suis un peu entre les deux, mais je pense que je réfléchirais comme toi. En fait, le cinéma, t'as quand même l'image.
Contre, est-ce que
son...
tu peux le dire sur un ton niais? Parce que quand on dit ça, c'est sur un ton niais toujours.
Je pense. Non, mais en
oui,
vrai,
mais d'accord.
T'as l'image et que... le son.
Okay,
la musique, t'as que le son.
Okay, okay.
Je suis un mec visuel.
Alors,
moi.
On est en soirée, vas-y, je vais mettre un son. Alors attends, je vais regarder Retour à le futur. Je vais le mettre à. Ouais, là, je crois qu'il joue Johnny B. Goode.
Il n'y a plus de soirée, t'as pas compris, c'est fini.
Ah oui, voilà.
Il n'y a plus de musique, donc il n'y a plus de soirée, c'est terminé. Pénélope,
c'est une galère.
Tu choisis quoi?
Moi, je préfère vivre sans cinéma.
Sans cinéma?
Ah ouais.
On a deux
musiques
de cinéma.
Et en plus, vous trichez avec les clauses des tu préfères. Tu peux pas dire. Mais alors, c'est des films, mais du coup, comme ça, il y a la musique. On part du principe qu'il n'y a plus de musique du tout.
Voilà,
mais que dans les films, les gens parlent et c'est tout. Il n'y a même pas de Johnny B. Goode dans Retour vers le futur. C'est terminé.
Moi, j'adore contourner les règles et. Fallait préciser, Guillaume. Je suis désolé, c'est comme ça. On approche de la fin de ce podcast, mais avant la fin. Il y a toujours les anecdotes croustillantes.
Ah.
Je ne peux pas se quitter sans ça. Quelques infos sur Wayne's World. Et d'ailleurs, je voulais vous demander avant de commencer les infos, c'est quoi votre vanne préférée dans Wayne's World? La première qui vous vient à l'esprit comme ça, Guillaume?
Je savais que tu allais poser la question et figure-toi que j'y ai réfléchi. Et il y a une vanne, en fait, qui n'est pas une vanne, parce que je connais les classiques, etc. Il y a un truc auquel on ne pense pas. C'est un moment, Garth, il se met derrière une batterie et il joue comme un dieu.
Ouais,
et
c'est génial.
Cette vanne, elle ne sert à rien. Ouais. Et après, ça s'arrête.
Il y a un mec derrière qui fait wow.
Ouais, et en fait, d'un seul coup, il y a des lumières de concert. Il y a. Et bon, voilà, moi qui suis batteur, je trouvais ça génial. Mais surtout, je me suis dit, voilà, c'est tout. Et c'est, je trouve ça génial.
Je vais t'en dire plus dans les infos après là-dessus.
Ah, parce qu'il y avait une chute à cette vanne.
Bah, il y a un truc derrière, un peu quand même.
Il y a un truc derrière. En tout cas, c'est celle à laquelle je pense, ouais.
Ok, Aurélien.
Bah moi maintenant c'est un peu ridicule mais chewing chapiteau ça me faisait rire. Non, c'est Engagement, voiture, ça, ouais, ça ouais. n'avait aucun sens quand j'étais petit. En plus, je le faisais tout le temps, genre c'était comme jour-nuit, tu vois, des visiteurs. À chaque fois qu'il y avait un truc qui passait, qu'il y avait une voiture, je disais voiture, tout le monde me regardait, qu'est-ce que tu fais ? Après, je disais engagement, c'est genre à tout le monde, disait, mais de quoi tu parles ? Ah les gars, vous n'avez pas vu Wentworth ? Ça, celle-là, ça restera toujours, je pense.
Pénélope, toi, il y a une vanne comme ça qui te marque
c'est
dans
Wentworth ? C'est dur parce que vraiment, j'aime tellement tout dans ce film. S'il y a un truc moi qui me fait rire à chaque fois vraiment beaucoup, alors que ça fait donc mille fois que je l'entends, c'est quand ils arrivent au Gaswork, donc là où ils vont voir les concerts, et que il dit à qui ce soir, et il dit alors il y a les géants verts de la haine, et après il dit il y a les pulicules. Et c'est comment ça daube, et il y a Wayne qui dit alors ils ont choisi un nom valable, et le fait que les pus du cul ça daube, ça me fait rire. Voilà, déjà les géants verts de la haine, ça me fait rire.
Très bonne vanne.
C'est sûrement une très mauvaise traduction.
Mais oui,
je sais même
ça.
Pas comment ça s'appelle
je
le groupe
en anglais.
Je l'ai vu hier et il parle des Stink Beatles.
C'est plus marrant les pus du cul.
Il dit justement genre ouais ça pue, il fait ah bah c'est cool, ils ont un bon truc, c'est ce qui s'appelle les Stink Beatles, tu vois.
Ben voilà. Moi, je crois que ça parle encore de cul, parce que c'est un sphincter, ça dit quoi ? Ouais. Et avec le mec, il dit quoi ? Ouais. Un sphincter, ça dit quoi ? Quoi ? Ben voilà, c'est bien ce que je dis. Mais je sais pas, c'est vrai, ça me faisait tellement rire quand j'étais petit, du coup, je la refaisais aux gens.
Fait, ah, yes.
Et je la faisais aux gens de ma famille qui comprenaient rien aussi, qui disaient quoi ? C'était un régal.
Mais en vrai, il y a aussi les blagues That's What She Said, là. C'est eux qui ont ramené ce truc quand même, hein, au grand public.
Ah, oui, c'est vrai, ce que tu dis Aurélien, écoute.
Ah, voilà.
Ouais, je suis d'accord avec toi.
C'est, on rasait tout le temps après ces blagues.
Alors. Les petites infos sur Wayne's World. Déjà, il faut savoir que lorsqu'on voit Dana Carvey à la batterie, bah justement, t'as parlé à Guillaume, bah c'est vraiment lui qui joue, puisqu'il patrie et il patrique.
Il patrique
depuis tout petit. Et du coup, c'était un petit kiff qu'il avait demandé, en gros. Parce qu'il joue de la batterie à fond, il joue hyper bien. Et il avait dit, est-ce que vous pouvez me donner un petit moment comme ça de gloire de batterie
c'est juste, un moment de gloire, ça s'arrête.
Et du coup, il a voulu jouer et c'est vraiment lui qui joue. Il n'a pas eu besoin d'apprendre, c'est vraiment, ses skills. Dans le film, Wayne et Garth ont donc une émission sur une petite chaîne locale du câble. Et ça, c'était le grand rêve de Mike Myers avant d'être connu. Pour lui, c'était le Graal. L'idée vient de là. Finalement, il a eu mieux avec le Saturday Night Live. Mais présenter une petite émission sur une chaîne locale, c'était le grand rêve de Mike Myers à la base. Il y a eu beaucoup d'impro durant le film. Et quand Wayne et Garth se retrouvent couchés sur le capot de la voiture à observer les avions atterrir, la réplique « Est-ce que tu trouves Bugs Bunny bonne quand il est déguisé en lapine ?» vient de Dana Carvey sur l'instant. Donc en gros, ça c'est un truc qui a été gardé, ils ont trouvé ça drôle, ils l'ont gardé direct.
C'est trop bizarre, en plus ils rigolent trop longtemps, l'autre il fait « bah non », il fait « ouais non, moi non plus
». Donc impro total à ce moment-là dans le film. Tout à l'heure, on parlait de Bohemian Rhapsody. Si cette chanson a été choisie pour le film, c'est parce que Mike Myers souhaitait reproduire ce qu'il faisait dans sa voiture avec ses potes avant d'être connu, à savoir chanter à fond sur Bohemian Rhapsody en bougeant la tête. Donc ça, c'est vraiment un truc qui s'est vraiment passé, enfin qui s'est passé dans la vie de Mike Myers.
Et j'avais lu en plus que à la base les producteurs ils voulaient mettre un autre morceau.
Il a bataillé à fond.
Il voulait mettre Guns N' Roses. Et lui, il a dit non. Je sais que c'est plus actuel, mais moi je veux Bohemian Rhapsody.
Ouais, en plus Freddie Mercury venait de mourir et tout, donc il disait c'est hyper. Et il paraît que Freddie Mercury l'a entendu. Je sais pas si c'est ça.
Bah c'est ça apparemment, et justement et ça lui aurait valu d'avoir un rôle dans le film Bohemian Rhapsody sur les Queen, où il joue le producteur à un moment, parce qu'il a relancé le morceau.
Oui, et même il dit à un moment dans le film, il dit ça marchera jamais. Pas genre un truc que vont écouter les kids dans les voitures.
C'est ouf.
C'est
fort.
Et d'ailleurs, Mike Myers, il avait vraiment poussé le truc parce qu'il avait dit si c'est pas Bohemian Rhapsody, je fais pas le film. Il a vraiment poussé à fond pour que ce soit ça.
C'est génial.
Autre info en lien avec cette chanson, lors de cette séquence, on peut les voir remuer la tête à fond durant plusieurs secondes à l'écran, mais plusieurs prises en off, ce qui fait qu'ils ont eu des torticolis durant plusieurs jours et de fortes douleurs au cou. D'ailleurs, si on est attentif, on peut voir que dans certaines scènes suivantes, ils bougent à peine le cou par crainte de se faire mal. Donc souvent, ils restent comme ça, droit pendant certaines scènes. C'est pour ça.
C'est génial,
ça. Taya Carey a refusé un rôle récurrent dans Alerte à Malibu pour pouvoir jouer dans Wayne's World.
Qu'est-ce qu'elle a bien
fait ? Pas grave, elle a fait Sydney Fox après.
Bravo.
Ouais, mais à la base, elle devait avoir un des rôles principaux avec Pamela Anderson.
J'ai une petite anecdote sur Taya Carey, évidemment. Quand on regarde le Wayne's World en VOD, sur TF1 VOD, si on regarde la liste des acteurs, il y a le nom de chaque acteur, et sous Tia Carrère, il y a écrit Tia Carrère, il y a la tête d'Eddie Mitchell à la place. Voilà.
Ah bon
bah, allez voir la VOD sur TF1 VOD.
Mais quel est le rapport avec Eddie Mitchell?
Aucun rapport.
Qu'est-ce qui t'amène à faire cette boulette?
Mais il y a un mec, tu vois, il y a un mec qui s'est dit, ah, je sais pas qui c'est, ah, mais Eddie Mitchell. De toute façon, personne va regarder ça, à part Guillaume. Mais oui, j'ai vu.
Mais écoute, heureusement que t'es là.
Mais comment ils ont fait? C'est pas possible.
Je sais pas.
Il y a même pas une lettre en commun.
Ils ont fait n'importe quoi.
Quand ils ont mis Emmanuel Carrère, ou je peux quand même, ça n'a aucun sens.
J'essaie de trouver un lien entre les deux, mais il n'y a rien.
Non, il n'y a...
Ça n'existe pas.
Il n'y a rien. Il y a... Alors, attends, l'info suivante, c'est Rob Lowe. Vous voyez qui c'est, Rob Lowe?
Oui. Ah ouais.
Rob Lowe, qui joue le méchant dans le film, a été engagé par Penelope Spheeris sur les conseils de Lorne Michaels, le créateur du SNL. Il est allé la voir en lui disant « Prends-le, il coûte rien et plus personne ne veut de lui ». Cela faisait suite à la divulgation de la sextape de Rob Lowe qui avait fait scandale à l'époque. Et plus personne ne voulait de Rob Lowe et c'est un peu Wayne's World qui l'a sauvé et qui lui a permis de relancer sa carrière.
Bah, on l'a relancé vite fait. Comment ? Pas non plus. Enfin, ouais, il n'a pas fait des milliards de trucs après, le pauvre.
Qu'est-ce qu'il a fait après ?
Il a fait Parks and Rec, mais.
Ah ouais,
c'est vrai. C'est déjà pas mal.
C'était
déjà pas
mal. 20 ans après, quoi.
Ouais, mais c'était vraiment une époque où plus personne ne l'appelait. Et...
C'est vraiment une époque où quand tu faisais une sextape, c'était mauvais pour toi. Ouais. Alors que maintenant, c'est bon art.
C'est vrai.
C'est bon art.
Dans le film, il y a un caméo de Robert Patrick, le T-1000 dans Terminator 2, qui demande à Wayne: Have you seen this boy ? En lui montrant une photo, ce qui fait écho à ce qu'il dit déjà dans Terminator 2 quand il recherche John Connor. Robert Patrick expliqua plus tard que cette réplique, on la lui balance au moins une fois par jour depuis presque 30 ans, suite au succès de T2 et de Wayne's World combiné. C'est une double dose de culte, du coup, ça doit être méga relou à force. Tous les jours.
Tu vois. Il a fait quoi depuis après ?
Mais il a souvent fait des caméos parce qu'il a aussi un caméo du T-1000 dans Last Action Hero, figure-toi.
Ah, mais c'est ouais.
Oh, il cherche aussi,
ouais. S'il joue le T-1000 partout.
Mais s'il y a que ça qu'on te propose.
Bon, bah, vraiment, non, mais il a aussi un super rôle dans Copland de James Mangold, qui est un super film. Et aussi, il a repris le rôle de Mulder dans X-Files, après, lors de la dernière saison.
Ouais, c'est vrai. Ouais.
Dans le film, Garth rêve de sortir avec une blonde magnifique et plantureuse, toujours le vent dans les cheveux lorsqu'on la voit. Eh bien, figurez-vous que cette femme qui se nomme Donna Dixon est la femme de Dan Aykroyd depuis 1983. Et comme ils étaient tous potes entre eux et qu'elle n'était pas actrice, ils se sont dit, bon, bah, on cherche ce profil pour le film, bah, y a ma femme qui est là, Donna. Dan Aykroyd, lui, a joué dans SOS Fantôme. Les Blues Brothers ont encore un fauteuil pour deux. On en parlait tout à l'heure, Aurélien.
Ouais.
Vous vous souvenez, dans le film, il y a une pancarte qui dit, à côté d'une guitare, No Stairway to Heaven, dans une boutique d'instruments.
Ouais.
Vous vous souvenez de cette scène ?
Ouais.
En gros, la vanne, c'était, si vous voulez tester la guitare, ne jouez pas ce morceau, car c'est souvent le morceau qu'on apprend en premier quand on s'initie à cet instrument et que c'est relou de l'entendre pour la centième fois quand on est vendeur. Ouais, voilà. Bref, cette scène a donc été tournée dans une vraie boutique et une fois le tournage terminé, le propriétaire a gardé la pancarte qui avait fini dans la poubelle. Eh bien, ce type a participé à l'émission Pawn Stars. Vous connaissez cette fameuse émission ?
Bien sûr.
Ce truc, c'est parfait quand tu bouffes. Tu sais, c'est en fond. T'as besoin d'un fond visuel, tu mets Pawn Stars.
Ouais,
c'est vraiment parfait. Bref, il s'est présenté dans l'émission avec la pancarte et une guitare signée du film et a demandé $40,000 pour le tout. Malheureusement, je n'ai pas la fin de cette anecdote parce que je n'ai pas vu l'épisode. Je n'ai pas réussi à le retrouver. Je ne sais pas s'il a réussi à vendre la pancarte. Donc, si vous avez déjà vu cet épisode, n'hésitez pas sur Twitter ou sur Insta à le dire. Mais voilà, j'aimerais savoir s'il a vendu pour $40,000 sa pancarte.
Tu l'aimais ou pas ?
Non, mais il y a la guitare aussi. Une guitare signée par Mike Myers d'époque. Mais 40 000, ça me paraît quand même beaucoup. Je pense qu'il a fait appel à son pote spécialiste qui lui a dit « Non, ça, c'est 1 000 en tout. » Mais c'est toujours comme ça que ça se termine. Et enfin, dans le film, on voit seulement une fois Wayne sans sa fameuse casquette lorsqu'il est allongé avec Taya Carrère. Sinon, dans toutes les autres scènes, il porte cette casquette devenue culte avec le temps. Voilà, c'était la dernière info de ce podcast. Ah, c'est une bonne façon de la terminer, Aurélien. Ouais. Je remercie Valentin et Ninon qui nous ont accompagnés durant l'enregistrement de cet épisode. Pénélope, merci d'être venue, c'était très cool. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton actu ?
Ah, j'en ai pas.
Ouais.
J'en ai pas du tout. Ça fait 3 mois que je fais rien et je travaille sur rien du tout.
Donc, et t'as une adaptation qui est sortie récemment et j'ai lu beaucoup d'interviews dans lesquelles tu disais que tu en étais très fière.
Oui, mais c'était déjà le monde d'avant, c'était en janvier. Oui, j'ai adapté Sacré Sorcière de Roald Dahl plus tôt dans l'année. C'est très bien, lisez-le. Même si vous ne connaissez pas le roman d'origine, c'est très bien.
Très bien.
Voilà.
Guillaume, Aurélien, on se retrouve dans 2 semaines. Ce sera le dernier épisode et après ce sera les vacances. On se retrouvera en septembre. Et pour le film aujourd'hui, pas d'indice. Ce sera un petit mystère, comme ça, qu'on met en place. C'est juste qu'en fait, j'ai pas encore trouvé le film.
C'est bizarre.
C'est un mystère, mais en fait, j'ai pas encore réfléchi à de quoi on allait parler. Donc, ce sera une réelle surprise. Mais j'irai sur le site Cinémature, que vous pouvez retrouver sur le site de We Love Cinéma, pour aller un peu checker tout ça. Merci, et puis à bientôt.
Merci.
Ciao à tous.
Merci.
Ciao. Ciao.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.